Bien. Je ne sais pas trop comment commencer, d'ailleurs.
On s'en fout, mais on se sent bien chez toi, Michel. Je t'ai dit tout à l'heure, t'es seul ici. Heureusement que t'es seul, parce qu'alors tu vis comme ça, bien seul.
Quel âge tu as, maintenant?
Je suis né à 24 août 16, donc j'ai 53 ans et des poussières. Voilà.
53 ans.
Tu pourrais être mon fils.
Ouais.
Ce qui me déplairait pas, puisque...
C'est gentil. Ça me déplairait pas d'avoir un père comme toi.
Ah, ça va, ça tombe bien. Alors t'es mon fils.
Alors t'es mon
deux
père.
J'ai deux fils en ce moment. J'ai Évariste et toi.
Ah bon, Évariste aussi.
Ah oui. J'ai dit l'autre jour, on a vraiment, je crois, que les enfants que l'on choisit. Alors, tu es mon fils.
Te v'là papa.
Et voilà.
T'as pas fini d'avoir des soucis avec deux galopins pareils?
Non, mais ce qui est formidable, c'est que j'ai deux enfants sans avoir la mère.
Léon, il t'est arrivé de rêver d'avoir justement, en dehors de la boutade, que je sois ou que Évariste soit ton fils, parce que tout ça, c'est tout de même du domaine de la boutade, enfin encore que ce soit très gentil de le dire. Est-ce qu'il t'est arrivé de rêver ça c'est mon fils et pas avoir d'épouse là à côté? Finalement, est-ce que tu penses que c'était une chose, enfin des désirs de l'homme finalement, d'avoir un fils sans avoir de femme?
Non, ben j'ai une intolérance je crois que je me trompe peut-être, une intolérance de solitaire, c'est que je voudrais faire un enfant, une fille qui accepte et dans une certaine mesure, et je dis pas ça mal à propos, le lui acheter en définitive. C'est-à-dire non pas le lui acheter avec de l'argent, mais le lui acheter avec la persuasion. C'est-à-dire, tu me fais un enfant, et puis tu me le donnes, puis moi je me taille. Quoi. Et puis alors je me traînerai le môme comme ça, de loge en loge. Je lui donnerai le bibon. Je sais langer un enfant, puisque j'ai langé ma pépé, qui est le petit chimpanzé, qui est comme un enfant. Je l'ai langé pendant un an, quoi. Alors je sais laver le cul dans le môme, quoi. Et puis au début ça fait drôle, puis après on s'attache à ce genre.
J'avoue, je serais curieux d'être là. Maurice, ton copain est en train de se marrer parce que Léo, je te jure, avec ta tête dégarnie, qui a une vingtaine d'années de chansons, dans la loge, en train de langer un môme, lui saupoudrer le derrière avec du talc.
Ah ouais.
Je crois que c'est le spectacle qui voudrait son pesant de cacahuètes.
Ouais. J'espère que... Je t'inviterai un jour, si ça m'arrive, c'est sûr que tu viens. Puis... Hein?
Est-ce que tu penses, on a dû te poser cette question souvent, est-ce que tu penses que justement les gens qui n'ont... Enfin, je sais que c'est vrai pour certains, mais enfin je ne sais pas si c'est vrai pour toi. Est-ce que ton amour, dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup ri, ou ricané, ou dont on a beaucoup admiré, en fait, selon les personnes et les cœurs, ton amour pour les animaux, justement correspond à ce manque? Est-ce que tu crois que ça correspond à
ça?
Oh
non, je pense pas, non, parce que j'imagine que si j'avais un enfant, je crois que ma vie changerait et que vraisemblablement ça ferait une grande plaie extraordinaire dans ma vie. Une plaie que j'entretiendrais ouverte, quoi, volontairement.
Mais tu aurais toujours tes animaux?
Oui, c'est sûrement ça, mais enfin, je me demande ce que. Il y a ce côté con de l'homme qui. C'est ma petite graine de vie qui a voilà, j'ai longtemps rêvé de je rêve encore d'avoir un jour une femme comme ça, même je sais pas, c'est difficile à dire ça, et de faire l'amour et puis de voir cette femme avec son ventre venant de peu à peu grossissant par moi, n'est-ce pas? Alors je la regarderai tous les jours de profil et puis je toucherai. Je voudrais toucher cette vie que j'aurais donnée. C'est vraiment le seul côté con que je me concède.
Est-ce que tu crois que c'est si con que ça?
Je crois, oui. C'est con parce que le fait de donner la vie,
c'est facile, finalement.
Non, oui, c'est facile, il y a trop de cons qui la donnent et puis c'est la merde, quoi. Je crois que... ça me mettrait ça au ras des autres et ça m'emmerde parce que je suis orgueilleux, j'ai l'impression que je suis un solitaire et je suis un peu comme un aigle et les aigles ils baissent pas tant que ça, quoi, au fond, quoi. Oui, au fond, bref.
Orgueilleux?
Je suis vachement orgueilleux, ouais. Je fais une grande différence entre l'orgueil et la vanité. L'orgueil c'est une qualité extraordinaire et l'orgueil c'est la solitude.
Comment il se manifeste ton orgueil dans la vie? Est-ce que tu es orgueilleux même avec les gens qui te sont très proches, comme par exemple...
Ben bon. La seule façon d'être orgueilleux, c'est d'abord de ne pas le montrer. L'orgueil, c'est une espèce de...
C'est la pudeur, en même temps.
Oui, et puis c'est une prise de conscience, comme ça. C'est dire... je crois que l'orgueil, c'est le véritable orgueil. Je ne suis pas arrivé à posséder vraiment ce sentiment de l'orgueil parce que je ne suis pas indifférent. Je crois que l'indifférence, c'est vraiment l'orgueilleux. Seulement, pour être indifférent, il faut être trop intelligent. Je ne suis pas assez intelligent pour être indifférent. J'aimerais être le spectateur de tout ce qui se passe. Et je ne suis pas le spectateur, je suis toujours l'acteur, plus ou moins. Je prends parti, je m'émeux, je suis insensible. Je suis insensible et la sensibilité, c'est la fin des haricots. Je pleure souvent, moi, pour des conneries, n'importe quoi. Je vois un cheval qui s'en va dans la rue avec son... L'autre jour, je voyais en Italie un cheval qui mangeait dans son gros sac de l'avoine. J'ai pleuré en regardant un cheval, tu comprends. Mais pourquoi? Parce que j'ai senti la solitude de cet être. Parce qu'un cheval qui mange même dans la rue, dans une rue d'Italie, il est seul, quoi. Un mec qui mange à une table, aujourd'hui, on était tous les quatre mangés là, mais on n'était pas seul. Un cheval qui mange même dans une foule, c'est seul, quoi. C'est pour ça que ce qui m'émeut, c'est la solitude des animaux. La solitude des animaux.
Et la solitude des hommes?
La solitude des hommes, les hommes s'arrangent toujours, alors quand ils sont vraiment solitaires, c'est infernal, quoi. Et en plus, ils prennent goût. Moi, je prends goût à être seul. Mais c'est une longue patience, comme on dit, faut le faire.
Essayons de voir un peu, on a le temps ce soir, puisqu'on passe toute la soirée ensemble. Quand t'as commencé vraiment en quelle année à écrire tes chansons? Si, de te souvenir.
Alors, la guerre.
Avant la guerre.
Avant la guerre, mais alors c'était mauvais, quoi, parce que...
Mais c'était... Qu'est-ce qui t'a poussé la première fois à écrire?
Je sais pas.
Tu sais pas, ça correspond pas à une chose de ta vie, faite...
Ah oui, il y a tout de même quelque chose qui était extérieur à moi. Moi, quand j'étais petit, je chantais. Je chantais des choses comme ça. J'étais chef d'orchestre dans la rue. J'étais des copains dans la rue, avec des filles, des garçons comme ça, et j'étais le chef d'orchestre. On jouait des instruments avec la bouche. Il y avait la trompette, le violon. Et moi, j'étais chef d'orchestre. Je faisais tout et je jouais en même temps tous les instruments. Un bon chef d'orchestre que j'étais, n'est-ce pas? Je savais jouer du violon avec la bouche, je savais jouer la trompette avec la bouche, tout ça, le saxophone et tout ça.
Je sais plus maintenant.
Je sais plus, non.
C'est dommage, je vous en aurais joué un peu.
Et puis, je pensais que c'était une chose normale, enfin, que tous les gosses étaient comme ça, tout ça. Ouais. Et après, un beau jour, j'étais au collège et je me souviens, je chantais aussi. Et alors là, je sentais des choses plus difficiles. Je sentais que j'improvisais, je composais en chantant. Et souvent, j'amenais des copains le soir, comme ça, il y a un frère, j'étais chez les frères des écoles chrétiennes, ces mecs avec en robe noire avec des rabats. Non?
Les rabats noirs.
Ils nous appelaient à 7h15, il y a un type qui rentrait dans la classe, il faisait comme ça. Ça voulait claquer les doigts, dire ceux qui ont envie d'aller au cabinet vont au cabinet. Moi, évidemment, j'allais toujours, forcément, parce que à ce moment-là, on partait 5 ou 10 minutes avant de manger, et j'allais avec 2 ou 3 copains, et puis je leur chantais des choses. C'était des symphonies, c'était des thèmes de symphonies.
Si je comprends bien, t'as vraiment pour la première fois, t'as vraiment chanté dans les water, quoi.
Oui, sûrement, oui.
Début de carrière, c'est curieux.
Puis je chantais partout, quoi. C'est dégueulasse ce que tu me dis, alors.
C'est pas dégueulasse, c'est toi qui le dis. Tu me dis, je m'évadais.
Non.
10 minutes avant de lui, parce qu'on a...
Non, décolle pas. Bon. Après, un jour, voilà, c'est ça. Moi, j'étais étudiant en droit et j'ai écouté. Je suis rentré dans une maison qui existe encore, Boulard-Saint-Michel, qui s'appelle Chante-Claire. Et il y avait des écouteurs, on pouvait mettre des sous, on écoutait des disques. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis rentré, j'ai mis des sous, j'ai écouté un type extraordinaire. Il s'appelait Charles Trenet. Il passait à l'ABC à ce moment-là. Alors là, j'ai trouvé ça formidable. En plus du poète qu'il était, il est encore, il avait apporté dans la chanson... Le rythme qui n'existait pas en France, on sentait encore les choses comme ça.
Tu l'as imité un peu au début?
Sûrement dans la façon, peut-être pas dans les paroles, mais dans la façon de rythmer la parole française sur la musique. Voilà. Ce sont des choses que je n'ai pas écrites, je ne savais pas écrire la musique à ce moment-là. Et puis, donc j'ai oublié tout ça, et puis c'était...
On en arrive à la fin de la guerre, là.
La fin de la guerre, oui, mais pas dans la guerre.
Qu'est-ce que t'as foutu pendant la guerre? Quel âge t'avais?
Moi, je suis né en 16, donc à la guerre, en 40, j'avais 24 ans.
Et t'as été à l'armée?
Oui, je suis aspirant de tirailleur algérien. Baisement. Je suis allé à Montpellier, on a fait les écoles de VOR, j'ai fini à Saint-Mexant.
C'est quand même curieux, tu sais, prendre les choses.
Au fond, j'ai fait ça pour avoir un peu d'argent. Je savais qu'un officier était payé, qu'un soldat n'était pas payé. Pas de fric.
Tu serais pas un peu grippe-sous, toi?
Tu sais, quand on n'a rien, on est tout le monde est grippe-sous quand on n'a rien.
Ouais.
C'est facile de dire à un pauvre, t'es grippe-sous. Alors, t'en as 10 000 dans la rue, ils disent, je suis grippe-sous, ils sont tous grippe-sous. Seulement, ils restent toute la vie comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. Et alors, j'ai fait mes écoles, je suis passé dans les derniers, pas forcément. J'étais pas
t'avais doué. Un bel uniforme, il était de quelle couleur?
J'ai doué, et non, j'ai accepté, j'ai choisi, enfin, ce qui restait, il n'y avait pas tellement de choses à la fin. J'étais dans les derniers reçus. Et j'ai choisi les tirs algériens parce qu'il y avait un beau képi bleu. Voilà.
T'avais un beau képi bleu.
J'ai joué toujours d'ailleurs avec un croissant sur le machin, le devant du képi. Et j'étais tireur algérien. Seulement, il a fallu qu'un jour je sois avec des Algériens, quoi. Forcément, c'est ce qui m'est arrivé. Et et je suis parti. Mais je sais que j'avais pas de revolver parce que j'avais perdu. J'avais perdu, j'avais un canif. Et j'avais 40 arabes, moi. 40 Algériens. Et à un bon moment, un type vient me dit, bon, non, il faut partir parce que tout le monde est parti. Et c'est comme ça que je suis parti, depuis le Cher jusque dans le Tarn, sans voir personne. Tout était vide, partout. Vide.
C'était à quel moment? C'est l'exode, ça, alors?
L'exode, oui. Et j'avais pas d'argent. Il fallait que je fasse manger ces hommes. Et mon père m'avait envoyé 1000 francs. 1000 francs, c'était encore un petit peu d'argent, quoi. Je m'appelle, j'ai acheté du chocolat et des cigarettes. Les cigarettes s'appelaient High Life. C'était la haute vie, la grande vie, quoi. C'était des paquets de
rouges.
Cigarettes, ouais. Paquets rouges. C'est infâme. Je distribuais ces cigarettes-là et je marchais, on marchait, j'étais fatigué. Et alors un jour, j'avais fini par récupérer un revolver, mais qui était un espèce de revolver joué. Je n'avais évidemment pas m'en servir, etc. Et on m'avait dit, il faut montrer, il faut être dur, il faut être comme ça. Moi, je ne suis pas dur, en fait, je faisais le dur. N'est-ce pas? Et on passait dans des villages vides. Je me souviens, un jour, on est passé dans le village de Saint-Amand, Montrond, où il y a l'indication... du centre de la France, c'est le centre de la France, exactement. Géographiquement c'est le centre de la France. On est passé dans un village vide, et en passant dans le village vide, j'ai fait arrêter tous mes hommes, je les ai fait mettre en rang, et on est passé au pas cadencé, dans le village vide.
Ça fait
ouais.
Fantastique.
Ouais. Fantastique. Et figure-toi qu'à un moment...
Ça c'est ta période militariste, si je comprends
bien. Militariste. Et à un moment, il y avait un type qui avait la mauvaise tête, forte tête, qui s'est mis dans le fossé, qui s'est assis, et il ne voulait plus marcher. Je ne pouvais pas laisser cet homme derrière, comme ça. Et alors là, j'ai fait la plus grosse connerie que je pouvais faire. Je suis allé vers lui et j'ai dit, il ne faut pas que je manque de toc devant tous ces mecs. Quelle autorité je vais avoir? Déjà, je n'en avais pas beaucoup. J'ai sorti mon petit revolver joué, je l'ai braqué, et je lui ai dit, si tu ne te lèves pas, immédiatement, je te brûle. Et tu sais ce qu'il m'a répondu, le type? C'est ce qu'il m'a fait. Il était vraiment les jambes écartées comme ça par terre. Il m'a fait... comme ça. Alors je l'ai laissé, je suis parti.
C'est ainsi que c'est terminé l'autorité de l'aspirant sous-lieutenant Ferré.
À peu près comme ça. Mais il fallait manger. Alors qu'il n'y avait plus d'argent. Et je les aidais un peu, quoi. Ils volaient, ils me faisaient la cuisine. C'est comme ça qu'ils volaient des moutons. On a mangé deux ou trois méchouis pendant pendant la retraite. Au flambeau. Et un beau jour, il y avait dans un village un fermier qui est venu râler, qui me dit, monsieur, il y a un de vos hommes qui m'a volé un lapin. Et alors, j'ai dit, mais comment donc? Moi, j'étais complice du vol, forcément, mais je ne savais pas. Parce que j'en croquais du lapin aussi. Et alors, je vois effectivement, ça c'est une histoire extraordinaire, je vois un de ces arabes qui avait le lapin à la main. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ce lapin? C'est rien, mon lieutenant, je caresse. Il a caressé le lapin, puis il l'a lâché, comme ça. Pour te dire dans quelles conditions.
Ça, c'était ta psychologique. T'es descendu vers le sud de la France et.
Albi.
Et t'es resté là jusqu'à la fin?
Je suis resté là jusqu'à la fin, et c'est là où j'ai connu ma première femme. Ouais. Voilà. Ça s'est terminé par un drame, quoi, forcément.
Alors 40-45 dans la chanson, pour toi, qu'est-ce que c'est?
En 40, je suis allé retrouver un jour à bicyclette, j'ai pris une bicyclette.
Mais c'était toujours, t'étais sous les képis déjà, non?
J'étais plus sur les képis, j'étais démobilisé, déképisé.
Déképisé.
Alors, en me déképisant, on m'a donné 800 francs. 800 balles de l'époque. Et avec ces 800 balles, mon père m'a fait prêter une bicyclette, une vieille bicyclette, et je suis allé de Monaco à Albi, en bicyclette. Ça fait pas mal. Je faisais 100 bornes par jour, 120 bornes par jour. Et comme j'avais très faim, je cassais la croûte vachement, et j'ai dépensé la moitié du fric. Pour aller retrouver Albi, ma première femme, avec qui j'avais pas encore couché.
Alors, ce n'était pas encore ta première femme.
Oui, mais elle allait le devenir après, trois ans après. Alors, je suis arrivé là-bas, et puis, ça a été la fiesta, quoi. Et je suis revenu pelé comme un mouton. Je suis arrêté à Montpellier. Et là, il y avait Traîné qui passait. Je suis allé dans un théâtre, où il passait le théâtre, je suis allé après la présentation, et pas pouvoir traîner. Pour voir son agent, son impresario, qui était à la fois son pianiste, qui s'appelait Maurice Rocher. J'étais le voir, et j'ai dit, monsieur, je fais des chansons, voulez-vous m'écouter si jamais des fois, etc. Alors je me suis assis au piano, et je me souviens que Traîné était dans le fond, donc après la présentation, dans le fond de la scène, il était avec des gens, et il s'est avancé, et... Ça m'avait impressionné parce que c'était d'abord Traîné. Et puis il avait une bagouze, un petit doigt brillant, ça, sur le piano, ça. Et je chantais des chansons qui étaient de ce que je fais maintenant, mais un peu plus poétique, un peu plus brumeux, tu vois. C'était plus Traîné déjà à ce moment-là. Et il m'a dit, c'est bien ce que vous faites, mais... Vous ne chanterez jamais vos chansons vous-même. Ça se passait en 40. Et ça m'a rien fait du tout, parce que je savais que je chanterais un jour mes chansons. Puis ça m'a pas gêné du tout, ça m'a étonné un peu qu'il me dise ça. Et puis j'ai fini mon droit, là, à Nice. Et puis là, j'ai connu une fille qui était plus âgée que moi, qui était gentille, qui était un peu poétesse, mais enfin, sans grand talent. Qui fumait beaucoup et qui tapait ses poésies à la machine, comme ça, tapait comme ça, il me dit, regarde Léo, ce que j'ai pondu. Elle sortait la machine et me donnait ces trucs. Et alors je mettais ces choses en musique. Et puis ça me convenait pas, quoi. Je sentais qu'il y avait des faiblesses dans les paroles. J'écrivais pas du tout, à ce moment-là. Je faisais que de la musique. Et un beau jour, je me suis dit, il faudrait que j'ai quelque chose à moi. Et je me suis mis à faire des chansons, des paroles. Pour que ça me convienne davantage, et c'est comme ça que j'ai fait L'Inconnu de Londres, L'Esprit de Famille, L'Opéra du Ciel, deux ou trois chansons, et puis j'ai rencontré...
Quelle est la première chanson que tu as écrite et qui a été enregistrée, qui existe,
la première
chronologiquement
chanson, la première chanson de moi, c'est les deux premières chansons, je les ai faites en même temps, c'est Le Temps des Roses Rouges et L'Inconnu de Londres. Bon. Et puis, j'ai été employé dans le comité de l'hôtellerie et de la restauration de Monaco. Voilà.
Ah, t'étais dans la restauration.
C'est ça, oui. Je donnais les tickets d'alimentation à ces gens-là. Voilà. Alors, autant dire, je bouffais, quoi. Je m'invitais à dîner. Alors,
c'est une période, finalement, assez où il ne s'est pas passé grand-chose.
Rien du tout. C'est une période de... où j'ai été en dehors du coup, je ne savais pas ce qui se passait, ça ne m'intéressait pas. Il y a une chose, c'est que j'étais gaulliste à ce moment-là. J'étais gaulliste parce que j'étais pour Londres, quoi. Ça, tout le monde était, les gens bien étaient gaullistes. Ma mère était gaulliste. Mon père était pétiniste. Comme beaucoup de pétinistes. Et le jour, je me souviens, on mangeait dans la cuisine avec mon père et ma mère. On était tous les trois parce que ma sœur était barrée. Et... Le jour de l'entrée des Allemands en Russie, je sais dans quelles conditions ils sont rentrés comme des Spoutniks là-bas. J'ai choisi ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je suis rentré à table, c'était un peu en retard, mon père mangeait déjà sa salade de tomates. Il me dit, tu es en retard parce qu'à la maison, j'avais 25 ans, mais quand j'étais en retard, on me le disait. Mon père me dit, alors, je dis, les Allemands ont perdu la guerre. Il est allé dans le couloir où il y avait une photo de moi en soldat, dans un sous-verre. Il a pris cette photo et il a brisé par terre. Ça s'est mis en mille morceaux. Ni ma mère,
ni moi n'avons rien dit d'abord, et ni ma mère ni moi n'avons touché à ça. Et je crois que mon père s'est levé la nuit pour aller ramasser le verre. Ça. Nous n'en avons plus parlé. Jamais.
Et t'étais gaulliste à l'époque.
Mais je pense que j'aurais été machiniste.
Mais tu l'es plus quand même.
Non, mais le gaullisme de ce moment-là n'a plus été le gaullisme d'après. Moi, j'ai été comte de Gaulle en 47. J'ai fait une chanson qui s'appelait Mon Général. J'étais en Martinique. J'ai fait cette chanson qui s'appelle Mon Général, qui fait partie d'un disque. Tiens, ça a été encore un déhaut-conflage de Barclay, ça. Quand j'avais fait Le Mon Général, j'avais...
C'était pour le Général de Gaulle.
Non, Mon Général, c'était une chanson contre le Général de Gaulle. C'était l'histoire d'un soldat qui était mort, qui était au paradis, qui lui écrivait, vous savez, il est passé la main, quoi. Vous avez été un grand homme, maintenant, ça va, restez comme ça, quoi. C'est pas la peine. C'était peut-être mieux dit que ça. Tu peux retrouver le disque facilement, le passer sur les antennes. Non, c'est plus rien. De toute façon, on n'a jamais rien risqué. Je me souviens que je chantais cette chanson et tous les gaullistes de l'époque venaient m'entendre au Quai de Libet, qui était un cabaret à la rue du Pré-au-Clair. Tous les gaullistes venaient et ils m'applaudissaient, quoi, parce que c'était une chanson contre laquelle on ne pouvait rien dire du point de vue politique, puisque c'était la vérité. Tu comprends ? Et oui, le dégonflage de Barclay. Quand j'ai enregistré cette chanson chez Barclay, donc après 61, Jean-Michel avait fait une belle orchestration avec des violons, c'était très triste, c'était beau, etc. Il n'a jamais sorti de disque. Et un jour, j'ai chanté cette chanson en public, à l'ABC. Alors là, je lui ai dit, écoute, tu m'enregistres cette chanson en public, tu la sors sous ma responsabilité. En disant que j'étais obligé, moi, artiste, à m'enregistrer en public et que tu as été obligé d'enregistrer mon tour de chant. Alors c'est comme ça que la chanson, peut-être entendue, ça fait partie d'un disque rouge qui est édité chez Barclay, mais le bon disque, il n'est jamais sorti.
Voilà. Elle est vieille, cette chanson, alors, hein? En fait. Elle date de...
47.
Elle est sortie 14 ans après, seulement.
Oui.
Là, c'est donc la fin de la guerre. Hein?
Oui.
Alors, après la guerre, tu avais donc écrit quelques chansonnettes que tu chantais dans les water avec tes copains dans ton collège, je sais pas quoi. Après la guerre, où l'aspirant Léo Ferré mangeait du méchoui avec ses tirailleurs algériens, ce qui est tout de même quelque chose. Bon, la retraite, au flambeau a sonné, premier drame, une femme, enfin, etc. On en arrive à la fin de la guerre. Alors, c'est peu de temps après que tu fais tes débuts, alors. Comment est-ce que tu es venu avec ton képi bleu de tirailleur algérien et que tu es arrivé sur une scène, hein, enfin, les premières scènes, par exemple, la scène des assassins, etc., où tu as chanté tes premières chansons? Qu'est-ce qui s'est passé, donc, entre 45 et 46?
Non, ce qui s'est passé entre 40 et 45, alors j'ai survécu comme ça. Bon.
Oui, non, mais après la guerre.
45-46.
Tu chantais pas quand même avec
toi? Non, j'ai connu Piaf à Monaco, et Piaf m'a dit il faut que vous veniez à Paris, parce que sinon ici, pas possible. Alors je me suis dit bon, je vais aller à Paris. Et je suis parti à Paris, la première fois. C'est con de dire première femme, ça a l'air d'annoncer le beau terme du malheur, c'est. La première, la deuxième, la dixième. Bon, je suis arrivé à Paris, puis j'étais au Bœuf sur le Toit 3 mois, comme ça. J'étais engagé par ce type qui s'appelait Moïsès, qui était le type qui avait créé le Bœuf sur le Toit. Et là, j'ai rencontré des gens, il y avait les duettistes Roche et Aznavour, c'est là que je les ai connus, il y avait les frères Jacques. Tout le monde débutait là, dans cette baraque. Je suis resté 3 mois là-dedans, j'étais relativement bien payé. Et puis après, j'ai été sans travail, je suis parti à la Martinique, 6 mois.
C'était été foutre là-bas.
Abominable. J'ai fait 20 heures de représentation en 6 mois. Je suis revenu vendre à terre.
Ça va marcher en Martinique?
Ben, ça a marché le temps que ça marchait, mais on ne travaille pas assez. La Martinique, c'est bien joli, mais c'est petit, quoi. Et je sentais, comme le type m'avait engagé parce que j'étais pianiste en plus, mauvais pianiste, enfin je pouvais taper du piano. Alors je passais en premier numéro avec mon tour, j'étais en smoking.
En smoking?
Il faut le faire en Martinique, en smoking, avec les chansons de Ferré quand on ne les connaît pas du tout. Et puis après j'accompagnais les autres. Et c'est là où j'ai vu un jour mon camarade Jean Blanc, qui est un charmant garçon, devenir raciste d'une seconde à l'autre. Je t'expliquais pourquoi. Parce que dans un village, sur la carte, on m'avait fait voir avant de partir de la Martinique, je ne savais pas où c'était la Martinique. Sur la carte, il y a des villages, la carte Michelin, alors ça a l'air important. Puis quand tu arrives dans les villages, c'est des villages de des baraques, des villages de machin, et où il y a beaucoup de gens de couleur, n'est-ce pas? Forcément, puisque ce sont les gens de là-bas. Quoi. Et les gens qui sont un peu des enfants, un peu et charmants, les seules personnes que j'ai, dont j'ai le bon souvenir, les seuls bons souvenirs de la Martinique, c'est les gens de là-bas. Non pas les blancs qu'on appelle des béquets, qui sont des gens abominables, mais les gens de couleur, les Martiniquais. Quoi. Et Jean Blanc, je l'accompagnais un petit peu au piano, il chantait. Et puis, dans cette salle, il mange des cacahuètes. Alors, quand il y a un mec qui mange des cacahuètes dans une salle, ça va. Mais quand il y a 1000 mecs qui mangent des cacahuètes, ça fait un bruit de cacahuètes, quoi. Comme ça. Et il est sorti de selle, Jean Blanc, en me disant, c'est ça, le nègre. Et ça... Moi, j'ai ri, parce que c'était trop drôle, quoi. Mais, et voilà, c'est-à-dire dans l'atmosphère bizarre en vivait. Je suis revenu, puis j'étais à Saint-Germain-des-Prés, puis là...
Ça t'a traîné, là.
J'ai traîné, oui.
Et c'est à cette époque-là que t'es arrivé aux Assassins, alors, peu de temps après.
Ah oui, aux Assassins, parce que je mangeais là, aux Assassins. C'était un type que j'avais connu, un vieux copain, tout ça. Et un soir, il m'avait dit, tiens, tu vas faire, on fait venir un piano, puis trois fois par semaine, tu vas faire ton tour, tu vas faire venir des copains. Et après avoir vu que les gens aient mangé, là, parce que tu sais pourquoi on appelle ça les Assassins. C'est moi qui lui ai dit d'appeler les Assassins, parce que la rumeur... avant la guerre, appelait ce restaurant Les Assassins, parce que, à deux reprises différentes dans l'espace d'un an, un jour, deux mecs différents sont rentrés et ont pris il a pris la tête d'un client comme ça, avec un rasoir, plouf ! Il a coupé la tête, il l'a mis sur la table. Deux fois. Et alors après, la rumeur du quartier disait...
C'est authentique.
C'est vrai, ça c'est authentique. Et on a toujours dit, on va chez les Assassins. Bon. Et alors, j'avais dit à Jacques, là, qui tenait ce bistrot, j'ai dit, tu devrais appeler ce bistrot les Assassins, parce que c'est trop drôle, puisque tout le monde...
Non, curieuse clientèle.
Curieuse clientèle, oui. Et on ne me coupait pas la tête, mais enfin... Et il me donnait la moitié de la recette, de la limonade, après, puis que je partageais avec les copains qui venaient chanter. Et quand il y avait 30 personnes, c'était bourré, quoi. On cassait la baraque avec 30 personnes. Il faut apprendre à être humble quand on fait nos métiers.
Et c'est à ce moment-là que tu chantais toutes ces chansons que tu viendras orchestrer.
Oui, toutes.
Monsieur Toutblanc,
oui. Cap-Chandrier. Je ne les ai plus chantées depuis.
Monsieur Toutblanc, c'est une très belle chanson.
Je l'ai faite, je me rappelle, j'avais chanté à Prévert, à Saint-Paul-de-Vence, à 49.
Après les Assassins, t'as encore traîné des années?
Après les Assassins, j'ai rencontré Madeleine un soir au Barbac, et Madeleine est rentrée dans ma vie... comme un ouragan, quoi.
Cette Madeleine, c'est ta deuxième femme.
Deuxième femme. Qui n'avait rien à voir avec la première. D'abord pour le caractère, la première était docile, Madeleine ne l'a jamais été, c'est plutôt moi qui l'ai été. Et puis pour l'intelligence, Madeleine, très intelligente, très cultivée, puis passionnée, quoi. Invivable. J'ai vécu 18 ans avec elle, puis je n'ai plus vivre, mais ça n'enlève rien à ses qualités. Et puis elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle me comprenait bien. Et c'était un peu ça mon prolongement, quoi. Les femmes savent pas s'arrêter. C'est ça le drame des femmes. Quand elles mettent le grappin sur un mec, il faut qu'elle assassine à la fin. Quoi. Et on a vécu comme ça dans la merde des années, des années, des années, des années.
Ça marchait pas du tout.
Ça marchotait comme ça.
Tu vivotais, quoi.
Je vivotais. Je vivotinais.
Et ça a commencé vraiment à marcher quand? 52?
60.
60?
61. Ça a marché pour moi le jour où j'ai fait le Vieux Colombier, en janvier 61. Deux mois après être rentré chez Barclay.
Mais alors, pendant des années, ça fait un sacré nombre d'années, ça, parce que moi, je pensais que ça avait marché... Tu vois, beaucoup plus tôt, je pensais que...
J'avais des disques, oui, on me connaissait, bon, mais je veux dire, du point de... Pour moi, pour me sentir bien, ça marchait depuis 61, avant, bon...
T'as fait l'Olympia, non?
Oui, mais c'est pas ce que j'ai fait de mieux, l'Olympia. Excuse-moi. Ah, puis en plus, bon, mais... J'ai fait l'Olympia en 54, en vedette américaine, et comme vedette, il y avait Joséphine Baker. Il y avait du monde à l'Olympia. Maurice, que tu vois là, il me connaissait pas. Il venait un soir, il n'avait pas pu s'asseoir. Et le quoi de plus triste là, qui allait dire partout que je faisais pas de monde. Tu comprends? Ça, c'est ce que j'ai jamais pu supporter, que ce type dise des conneries. Que c'était pas vrai, ça. Ça avait marché, l'Olympia. Ça avait marché. D'abord, je suis pas Sinatra, je saurais jamais, mais quand même, ça avait marché. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Un samedi, il n'a pas pu s'asseoir. Alors, viens de le dire, quoi de plus triste.
54, l'Olympia. Qu'est-ce que tu chantais à l'époque, en 54, l'Olympia?
Enfin, alors, 54, c'est la première année, mais c'est la 55, surtout, que je suis passé tout seul là, en vedette.
Alors, en vedette à l'Olympia?
55, oui. Un an après. Et puis, je chantais, par les galas, puis du pauvre, je chantais la vie, je chantais le monsieur mon passé. C'est là où je créais toutes ces chansons. D'ailleurs, j'avais chanté trop de chansons nouvelles, je crois. Après ce qu'on m'a dit, quoi. Et j'avais des grands cheveux énormes, et puis j'avais des souliers de montagne. Je ressemblais à quelque chose d'abominable, quoi. J'avais mis mon Saint-Bernard, on l'avait photographié d'une façon démesurée. J'étais plus petit que le Saint-Bernard, devant le Saint-Bernard. C'était assez beau. Alors il y a évidemment un critique de chansons qui a dit quel est on ne sait pas lequel des deux est le plus caboclo, tu comprends? C'est dégueulasse. Dans ce métier-là, faire à des mythes qui ont le droit d'écrire n'importe quoi dans les journaux. Et puis après, je suis rentré dans la trappe, quoi. Dans la trappe.
Après 55, ça a été la trappe.
C'était la trappe, oui. Parce que personne ne m'a aidé. J'ai toujours été contre les imprésaries.
Et pendant cette période de trappe, après 55, après, c'est-à-dire après l'Olympia, qu'est-ce qui s'est passé entre 55 et 60? T'as continué à écrire des chansons
Oui, puis chantonner par-ci par-là, faire des petits galas, des petites choses, quoi. Mais des choses comme ça.
Parce qu'il y a des moments où t'as vraiment perdu, tu t'es dit c'est pas possible, c'est-à-dire depuis trop longtemps. C'est...
Jamais.
J'en ai marre.
Jamais, parce que je m'en fous, parce que si je faisais pas la chanson, j'en faisais rien. Comment dirais-je? Non, je me suis jamais posé la question de ma carrière. Ah non, jamais du tout. Je te jure, Michel, je me suis jamais posé la question de ma carrière. Tu comprends? Ma carrière, elle n'existe pas. Si je suis là, si je suis ce que je suis en ce moment, et Dieu sait que, bon, je suis ce que je suis, ils ne l'exagéreront pas, eh bien, j'ai rien fait pour ça, c'est comme ça. Et puis, en définitive, c'est avec beaucoup de chance aussi.
Est-ce que toi, tu as eu beaucoup à souffrir, enfin, comme d'autres d'ailleurs, de la période dite yéyé? Ça a été le blocage total pour beaucoup d'artistes. Sur les ondes.
Oui, de toute façon, moi j'étais bloqué alors. Par l'état de gens, par l'autocensure, tout ça. Alors. Non. Moi, peut-être qu'il y a eu cet embouteillage de la circulation radiophonique, parce qu'il n'y a que 24 heures par jour, on ne peut pas en faire 50. Et qu'il fallait, comme on dit, promotionner, moi je dis encore promouvoir tous ces gens-là. Mais j'en parlais, comme ça on me demandait, mais ça ne m'a jamais gêné, parce que de toute façon, je. S'il n'y a pas eu les yeux, ça ne change rien pour moi.
Est-ce qu'il y a des gens qui, sans que tu leur aies d'ailleurs demandé, que tu n'avais pas sollicité, qui t'ont aidé, mais vraiment aidé, je veux dire, qui se sont penchés sur toi, qui se sont penchés sur ton cas, qui se sont dit, ce garçon a du talent, il faut l'aider. Est-ce qu'il y en a eu?
Qui sont venus me demander, pour moi, qui m'ont aidé.
Aidé, oui.
Je ne sais pas. Des gens qui m'ont encouragé, qui aimaient ce que je faisais, sûrement. Oui, enfin, c'est des gens qui pouvaient directement rien faire pour moi. Qui n'étaient pas dans le spectacle, qui étaient rien. Tu sais que dans le spectacle, les intermédiaires à qui on a affaire, ce sont des types d'agents de spectacle qui sont pour la plupart du temps de sinistres imbéciles, n'est-ce pas? Et maintenant, il y en a de mieux, je crois. Ils se mettent davantage, ils sont plus jeunes, ils sont plus à la page. Mais du temps, il y a 20 ans, c'était de sinistres cons, n'est-ce pas? J'ai toujours refusé. Il y a des gens qui venaient me dire, vous voulez que je vous occupe de moi? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites, imprésario? J'ai dit, je ne veux plus vous voir. Voilà. Et puis, même avec un peu de mauvaise foi, j'aime assez la mauvaise foi, ça fortifie la solitude.
Et ça a redémarré comment? Alors, ça a démarré comment? Tu te souviens de cette époque?
Eh bien, ça a redémarré 60. À 61. Je vais l'essayer chez Barclay.
Monsieur Barclay m'a demandé, Léo Ferré, je veux un succès, afin que je puisse promotionner. À Europe 1, et chez Fontaine, et chez Lourier, et chez Dufresne, et moi pas con, j'ai répondu, voilà patron, ce que j'ai pondu. Yes, yes, Et Bombay, tirame la gamba, tirame la gamba, yes, yes. Bombay, tirame la gamba sur le tramway.
Ça s'est trouvé comme ça. Je suis un disque chez Barclay. J'ai peut-être de chansons peut-être plus
accessibles.
Plus accessibles, des choses comme Les Poètes ou bien Jolis Mômes.
C'est Jolis Mômes quand même le truc qui a fait vraiment démarrer, je crois, non?
Non, moi ce qui m'a marqué, c'est Paris Canaille. Alors c'est bien avant, quoi.
Oui, mais Paris Canaille ne t'avait pas donné le coup de fouet, je veux dire.
Enfin, on me connaissait, on mettait, j'avais une marque, quoi. L'important dans ce métier, c'est d'avoir une marque.
Raconte-moi des choses. Avec toi, j'ai envie d'être un peu, tu vois. On se connaissait pas du tout. Puis un jour, on a fait Radio Psychose. Tu te souviens? C'était la troisième de la série. Je pense qu'on en a dit beaucoup plus aujourd'hui, d'ailleurs, que la Radio Psychose. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et t'es arrivé un matin, là, avec le côté un peu, tu vois, quand on ne connaît pas, qui est un peu ridicule, tu vois, quand on ne connaît pas, c'est-à-dire...
Qu'est-ce que c'est, ça?
Attends, bah laisse-moi finir. C'est-à-dire l'homme de 50 ans qui est habillé comme un rocker anglais, c'est-à-dire blouson de cuir, pantalon de cuir, les bottes et tout, tu vois, t'es arrivé en roulant des mécaniques, comme un voyou.
C'est pas vrai, écoute.
Ah bah écoute, je dis tout de suite que je suis un menteur, c'est vrai, t'es arrivé comme ça. En plus, t'étais mal réveillé parce que c'était tôt, on avait enregistré tôt, c'était 11h du matin. T'étais pas de très bonne humeur. En plus, t'avais eu du mal à te garer, ou je pense que c'était Maurice qui avait pas garé la voiture. Enfin bon, t'es arrivé, c'était... Et puis on a fait cette émission, bon, puis après on s'est revus, puis c'est très récent qu'on a vraiment accroché.
Ouais. Et tu penses toujours que je suis le bonhomme 50 ans qui s'habille en cuir?
Ah non, mais maintenant je le pense plus, parce que je te connais. Mais je voulais dire ça, pour expliquer la réaction de certaines personnes.
Ah, c'est vrai?
Oui, la réaction de certaines personnes qui voient, et puis moi je discutais à propos de toi avec des gens qui m'ont dit, genre du métier, parce que c'est un métier, paraît-il. Ouais. Qui m'ont dit, oh, Léo, son accoutrement bidon, etc., anarchiste en peau de lapin et tout. Enfin, ouais. Tu vois tout ce qu'on peut dire sur quelqu'un. Je dois dire que ça a été très sévère. Je t'ai j'aurais mieux que remplacé.
J'aurais pu dire en peau de vison.
Ouais. Bah oui, mais tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Peau de lapin, c'est un cliché, ça sert plus. Peau de vison, déjà, faut.
Oui.
Il y a quelque chose.
C'est ça, la culture.
C'est la culture.
C'est ça.
Alors. Donc, le Léo, tu vois, finalement, Léo, c'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui, puis on n'a pas terminé. C'est assez difficile.
Les visions, c'est la culture des michetons.
Non, mais c'est vrai, il y a un univers Ferré qu'on connaît assez mal. Tu comprends les gens, tu sais, finalement, Léo Ferré, qu'est-ce que c'est? Léo Ferré, c'est un homme, c'est un poète, pour certains, avec un petit P ou un grand P. Un petit P comme putain ou un grand P comme poète.
C'est pareil, je crois.
C'est pareil. Et puis, t'en as d'autres qui disent Léo Anard. Léo Lanard, tu vois, Lanard. Celui qui fait un peu peur, quand même. Et puis qui, en même temps, ravit le bourgeois, tu vois, qui vient t'écouter, quand même, parce que, quand même, c'est la soupape de sûreté. Puis, il y en a d'autres qui croient ni à l'un ni à l'autre. Mais en fait, je crois que les uns et les autres, tous ces gens-là, ne connaissent pas du tout Léo. Avec ses défauts, ses faiblesses, comme tu expliquais tout à l'heure. Certainement ses mesquineries, comme en ont tous les gens, parce que c'est...
Jamais mesquin. Ah, j'arrête, je m'excuse, mais jamais mesquin.
J'attendais. Je ne crois pas que je t'ai sorti ce mot comme ça, gratuitement. Non, mais je veux dire, mesquinerie, tu comprends, t'es pas complètement... Tu comprends Peut-être que tu n'es pas complètement désintéressé en tout, c'est ça que je voulais dire.
Qu'est-ce que tu racontes?
Ben, je sais pas, on peut en parler.
Ah non, c'est pas possible, ça. Non, je pourrais pas. Non. Ah non, ça m'est jamais venu dans le ventre, ça. La mesquinerie, ça m'empêcherait de vivre, Michel. Je pourrais pas. Ah non, je pourrais pas. Je pourrais pas être ce que je suis si j'étais mesquin. C'est abominable, la mesquinerie. Je parle pas tellement de la mesquinerie, des sous, enfin, les trucs comme ça, le calcul, non, c'est pas ça que je veux dire, mais... La mesquinerie dans les sentiments, les choses, quoi, les arrière-pensées, la merde. Non.
Non.
Oui, j'ai des défauts, mais pas celui-là.
Quels sont tes défauts?
La bonté. Voilà, c'est un drôle de défaut.
Et le mauvais caractère aussi.
Le mauvais caractère, non. J'ai pas mauvais caractère. Mais dis donc, parlons un peu du tien. Tu sais que t'es un des mecs du métier qui a le plus mauvais caractère et que j'aime bien ça. Mais t'as un fou du caractère.
Moi?
Toi?
Je suis toujours aimable et tout, mais j'ai culotté.
Tu sais qu'il faut savoir te parler. Remarque-moi, je dis que je vois quand t'es avec des gens, comment tu les regardes, comment tu les fusilles du regard, comment tu t'attends la petite faille pour leur rentrer dans le chou. Je le sais, ça. Je le vois. Et puis, tu te défends bien.
Mais pas du tout, mais je lâche. Tu m'as arrêté pour mesquinerie, mais je t'arrête. Je suis pas d'accord.
T'as un sale caractère. Pourquoi? Parce que t'as du caractère, comme disait l'autre.
Oui.
Parce que tu te laisses pas faire. Bon, alors, moi, je te renvoie le compliment. T'as mauvais caractère. Alors, si j'ai mauvais caractère. Si t'as mauvais caractère.
Ah non, mais t'as plus mauvais caractère que moi.
Non.
Ah, si, si.
C'est pas vrai.
Non, mais en dehors de ça, bon, t'es pas mesquin. Bon, d'accord.
Non.
Mais t'as mauvais caractère.
Je suis faible, voilà. Je suis faible. Oui, ça, c'est sûr.
Ouais.
Je suis faible.
Oui, oui. Dans la vie, bon, on m'a dit également, là je te sors tout parce qu'on m'a dit, il faudrait bien qu'on fasse le point, enfin, on m'a dit également que tu étais assez intrigant.
Non, là t'as rajouté ça, c'est... Non, on dit autre chose. Non, ça va pas. Ça.
Attends, qu'est-ce que je viens de trouver?
Ça va pas, ça, non.
J'ai envie de te faire enrager un peu.
Ah non, mais tu peux pas me faire enrager parce qu'intrigant, alors tout le monde sait que je suis pas intrigant, ça se voit tout de suite que je suis pas intrigant, quoi. Je suis pas assez intrigant d'ailleurs. Les gens qui ont mauvais caractère, ils sont pas intrigants. Tu comprends? L'autre jour, je suis rentré à Europe numéro 1. Bon. Europe numéro 1, il faut le faire, parce qu'il faut y aller, puis on reste des heures, et puis ils vous exploitent bien, on est d'accord, bon.
Alors, de toute façon, vous êtes, il faut bien le dire au-dessus, les uns comme les autres, vous êtes quand même ce qu'on peut appeler des... Enfin, c'est le terme qu'on emploie dans le métier, vous êtes tous des putains, quoi.
Oui, hein? D'accord.
Vous êtes d'accord?
D'accord.
Hein?
N'en rajoute pas trop là-dessus, mais d'accord.
D'accord.
Bon, d'accord.
Hein, vous venez là, vous venez, oui. On vous dit, oui. Etc. Et vous venez mais pour vendre votre salade,
bon, écoute, là, je vais
pour vendre vos
truc.
Disques, bon. Pour vendre vos chansons, vos
vrai.
Paroles,
c'est
vos musiques, vos récitals, vos manifestations, vos livres, bon. Etc., etc.
Parce que moi, un jour, dans une chanson qui s'appelait Pique et Poc, j'ai engueulé Europe numéro 1. Bon, il se trouve qu'ils sont intelligents dans cette station, ils ne m'en ont pas voulu, ils ont même passé la chanson sur les antennes. Et j'ai engueulé Lucien Maurice, qui est un vieux copain de longtemps.
Oui, je sais, parce qu'il est bien la période 46-47.
C'est pas en putain que j'ai été à Europe numéro 1, c'est parce qu'il y avait Lucien. Et Lucien m'a demandé gentiment de venir. Il m'a dit, viens dans un studio là-haut, comme ça, il y a Barbara et tout ça. Mais j'y étais, puis volontiers, parce que j'aime bien Lucien, puisque je le retrouvais un peu. Et puis c'était sympathique. Mmh. C'est tout. Mais alors, lorsque je suis entré à Europe numéro 1, j'ai vu, il y a des femmes en bas, qui sont habillées, des petits costumes. Alors, je suis rentré, puis j'ai demandé quelque chose à une femme. Elle m'a pas regardé. Alors j'ai dit que c'est des concierges. On appelle ça des hôtesses.
Mmh.
Bon. Eh bien, je suis passé. Je trouve ça extraordinaire. Je suis passé dans tous les... J'ai ouvert tous les bureaux à Europe. Je rentrais, je disais, vos hôtesses, extraordinaire. Je refermais le bureau, je le réouvrais, et je disais, dégueulasse. Partout, j'ai fait ça, dans toute Europe. Voilà. Alors, j'ai mauvais caractère, parce que je dis que ces femmes, si elles sont hôtesses, il faut qu'elles soient avec le cycle, qu'elles soient hôtesses. Tu comprends? Et on m'a dit, après j'ai demandé à quelqu'un d'Europe numéro 1, il me dit, s'il y a des grosses têtes dans la maison, c'est celle-là. Écoute, maintenant, à tort ou à raison, tu m'as bien confessé, hein. Bon. Mais, je sais pas si ça se fait, ça, mais j'ai envie de te parler un peu, comme si on était en dehors du micro. Enfin, c'était pas européen, quoi.
Non, on n'est pas européen, d'ailleurs, parce qu'on est chez moi.
Oui, d'accord.
Tu vois, t'essayes déjà de tricher.
Non, non, non. Non, mais quand j'étais, par exemple, quand j'étais connu l'année dernière...
Oui.
Je te posais une question, tu me réponds ou tu me réponds pas, hein.
Oui.
Quand j'étais connu l'année dernière...
Oui.
D'abord, j'ai été impressionné, je veux dire impressionné psychiquement par ta présence. Et ta présence, ça veut dire ta taille, tes cheveux bien coupés, tes yeux verts, ce qui est rare chez un mec. Ton sourire, ton intelligence, ta façon de parler.
Arrête.
T'en bouge pas là, non, mais là.
On part ensemble à la fin de l'émission.
Laisse-moi. Justement, ça a quelque rapport avec ça. Attends. Et ça, j'ai compris maintenant, je sais qui tu es. Mais d'ailleurs, je ne savais pas. Et t'avais un mouvement dans la tête pour amener tes cheveux en arrière. Comme ça. Comme ça.
Ouais.
Tu parlais un peu comme ça. Hein, ça. Et un jour, j'ai dit à Maurice, dis donc, ce mec, il est bizarre quand même.
Je sais où tu veux en venir.
Il serait pas.
C'est Henri, c'est dégueulasse.
Je le trouve un peu efféminé. Mais, tu vois, un peu, je veux dire, comment dirais-je ?
Alors, un peu efféminé.
Un peu efféminé. Mais maintenant, j'ai compris ce que c'est. Je sais ce que c'est maintenant. C'est pour ça que je t'en parle facilement. Je sais ce que c'est que t'es passionné, t'es artiste. T'es, voilà. Moi, je suis un peu efféminé aussi de l'âme. Je te ferai remarquer que, par exemple, le soir où tu es venu au Don Camillo,
ouais.
J'ai trouvé ça admirable. Je savais qu'il n'y avait aucune arrière-pensée d'un côté ni de l'autre. Mais pour quelqu'un qui a pu voir, pour les bourgeois cons, ils auraient pu se poser des questions. En sortant de mon tour, tu es venu, tu m'as embrassé sur la bouche.
Ouais.
J'ai trouvé ça formidable. Mais ouais, pour quelqu'un qui voit, il a dû se dire, qu'est-ce que c'est ces deux types? Non, mais je m'excuse.
Oh, j'avais oublié ça, c'est abominable. Oui, parce que voilà, ça c'est très facile à expliquer. Voilà ce qui s'est passé. J'étais venu te voir, parce que je ne t'avais pas vu depuis beaucoup de temps chanter, puis il y avait toutes ces nouvelles chansons pour moi, enfin pour la plupart, qui étaient donc des anciennes. Et puis tu as eu ce texte à la fin, qu'on a enregistré le lendemain, qu'on a passé dans l'émission depuis à plusieurs reprises.
Oui.
Et j'ai trouvé ça quand même. J'ai trouvé ce texte tellement extraordinaire. Parce que c'est pas un texte, c'est pas littéraire, quoi. C'est même assez mal fagoté par endroits, tu vois. Je le trouve assez mal fagoté. Mais il y a une telle truc là-dedans, j'en ai pris plein la gueule, tu vois, vraiment plein la gueule. Et à la fin, mais c'était le coup, tu vois, c'était un peu le... Je sais pas, j'ai vu des images, enfin des photos là-dessus, je présume que c'est ça, ce qui peut entraîner. C'est-à-dire que c'est un peu, tu vois, deux types qui se retrouvent dans dans un mouvement quelconque, dans la résistance, ou dans la révolution, ou je sais pas, n'importe quel mouvement... Et qui se dit, putain, il a dit ce que j'avais envie de dire, finalement, peut-être, ce jour-là. Et c'est ce que j'éprouvais depuis un bon moment dans cette salle.
Oui.
Et finalement, ce texte résumait. Alors, finalement, je crois que c'est pas toi que j'ai embrassé, comme tu dis si bien.
C'est toi, Narcisse.
C'est moi, Narcisse. Voilà.